You know, as we live in this world, if we're watching what's going on,
comme nous vivons dans ce monde, nous voyons un monde qui change rapidement à bien des égards, de nombreuses façons dont nous parlons, et les faits saillants sont très évidents, très très évidents. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont subtiles, qui peuvent changer notre monde de façon très légère. Et puis un jour, on se réveille et c'est un endroit, un monde complètement différent où nous vivons. L'une de ces façons s'est produite au cours des dernières 10 années. Nous avons vu la société changer et nous avons entendu parler que le capitalisme est devenu incontrôlable et que des gens sont devenus excessivement riches, je veux dire plus riches qu'ils ne pourront jamais en dépenser. Et au cours des 3 ou 4 dernières années, nous avons vu comment cela peut changer le monde dans lequel on vit. Certaines personnes ont tellement d'argent qu'ils commencent à avoir suffisamment de pouvoir pour affecter les choses qui se passent dans la société. Avant, les présidents étaient ceux qui avaient le pouvoir de vraiment faire avancer les choses, et c'est toujours, ils ont toujours ce pouvoir, mais comme les rois de l'ancien temps qui étaient les plus riches du monde, les richesses automatiquement commandent de nombreuses avenues de notre vie. Je pourrais donner des noms que nous avons tous entendu parler, comme Bill Gates, qui a plus d'argent qu'il ne sait quoi en faire. Et il est impliqué dans toutes sortes de choses dans le monde, et il a des idées sur beaucoup de choses qui nous affectent, les gens l'écoutent. Il pense qu'il a des idées sur l'endroit où le monde pourrait être et comment la population mondiale devrait vivre, etc. Nous avons des hommes comme Mark Zuckerberg qui commande énormément de véhicules de communication et son argent lui permet de faire certaines choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Ils avons des gens comme George Soros qui a accumulé beaucoup d'argent et qui contribue sur des candidats politiques aux États-Unis, c'est comme ça que ça marche. Et d'un seul coup, nous voyons des hommes de renom, nous avons des gens qui supervisent ce que les dirigeants du monde font parfois. Ils commencent à écrire plus ou moins le cours de l'histoire, comme maintenant, c'est une compagnie privée qui va dans l'espace. Ce n'est plus la NASA. Dans les coulisses, ces hommes ont un énorme pouvoir dans le monde. Et nous entendrons de plus en plus leurs idées et les normes pour le monde qui nous entoure. C'est très normal. Dans le temps, c'était les rois. Et ce que les rois disaient, c'était ce que les gens croyaient. Et nous voyons dans Apocalypse 13, nous voyons le contrôle autocratique de la bête qui dicte ce que le monde croira. Bien sûr, la bête sera en Europe. Ce n'est pas juste. Nous pensons à un homme très riche qui a été très vocal dans ces dernières années, attiré beaucoup d'attention, et il regarde autour du monde, il dit « Je pense que je n'aime pas vraiment où je vois le monde se diriger. Je ne pense pas que quelqu'un qui voit vraiment ce qui se passe, ce n'est pas un bel endroit quand on regarde le chemin devant nous. » Mais cet homme, donc, dont je parlais, Elon Musk, semble avoir décidé, il regarde les choses un peu plus clairement et utilise sa richesse pour contrer certains de ce que vous avez dit sur les différentes choses qu'il a faites, des accusations qu'il veut faire, certains des commentaires qu'il a fait. Et je n'ai pas l'habitude d'écouter tout ce qu'il a dit, mais j'ai entendu certains dans certaines entrevues, il est un peu introspectif lorsqu'il regarde ce qui se passe. Il vient d'un milieu très modeste, il était pauvre quand il était petit, et cet environnement, il est devenu un peu philosophique dans certaines entrevues qu'il a données. Et il a dit des choses que les gens partout devraient se demander. Laissez-moi vous lire l'un des articles sur lequel il a écrit. C'est apparu dans businessinsiders.com en avril, le 16 avril 2022. C'était le titre de l'article est très révélateur. Il est dit, Elon Musk explique sa philosophie motivante et comment elle tourne autour d'une série de questions sur le sens de la vie. Et si vous avez entendu de petits extraits, vous verrez, il semble changer certaines de ses perspectives. Il pose des questions que le monde devrait se poser. Laissez-moi vous lire quelques extraits de cet article. Elon Musk dit qu'il voudrait élargir la portée de l'échelle de la conscience biologique et numérique, apprendre à mieux poser trois questions. Pourquoi sommes-nous ici? Que fait l'homme sur cette terre? Comment sommes-nous arrivés ici? Et qu'est-ce qui se passe avec tous les problèmes qu'on a? Trois bonnes questions. Il a également parlé de ses intérêts pour la physique et bien sûr, il est très connu pour ses expéditions spatiales et la technologie avec laquelle il a été impliqué là-bas. Il a dit que Musk a également spéculé que son état pourrait avoir le sien embryon et bien sûr, il a cette condition que je ne nommerai pas, mais il a spéculé que son état, sa condition, il est Asperger, je crois, a joué un rôle dans son obsession. Il est obsédé par la vérité. J'ai étudié la physique parce que la physique tente de comprendre la vérité de l'univers. Musk a dit que personne ne m'a fait l'étudier. Il a ajouté, nous devrions nous débattre sur ces choses qui nous excitent pour l'avenir. Une chose misérable après l'autre, résoudre un problème triste après l'autre ne devrait pas être juste la raison de notre existence. Maintenant, à peu près au même moment, j'entendais ces petits morceaux de discussion, d'interview qu'il avait faites. D'autres personnes commenceraient à dire les mêmes choses. Qu'est-ce que l'homme fait ici? Quel est le but de la vie? Pourquoi sommes-nous ici depuis 70, 80, 90 ans? Combien d'années Dieu nous a mis ici? De quoi s'agit-il? Quel est le sens de tout cela? Ils ne le savent pas. Mais quelqu'un comme Monsieur Musk semble chercher la vérité à ce sujet. Fait le commentaire, toute ma vie, je me suis intéressée à la vérité, mais je ne l'ai tout simplement pas trouvée. C'est ce que Monsieur Musk a dit autour. Que faisons-nous ici? Que faisons-nous ici et qu'est-ce que la vie? Ça me fait penser à un verset intéressant dans Luc. Si vous voulez bien vous reporter à Luc 10. Luc 10, le Christ parle aux disciples après les avoir envoyés guérir les malades et chasser les démons. Ils sont revenus et ils étaient très excités par tout ce qui s'était passé, que Dieu les avait conduits et dirigés à faire. Et au verset 23, Luc 10, verset 23, Christ, après avoir remercié Dieu dans les quelques versets avant cela, Dieu a ouvert les yeux de ses disciples pour voir. Et il se tourne vers ses disciples, il leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Beaucoup et beaucoup d'autres vont désirer de voir ce que vous et moi entendons et comprenons. Connaître la vérité sur ce que l'homme fait ici sur terre, savoir où la vérité vraiment est, savoir comment l'homme est devenu ce qu'il est, et savoir comment et où vont les choses, c'est quelque chose que Dieu a ouvert vos yeux et les miens à voir. Il y a beaucoup de réconfort et de paix. En ce sens, nous pouvons simplement prendre cela pour acquis parfois, parce que nous connaissons les réponses que Monsieur Musk et d'autres ne connaissent pas. Mais nous avons une chance et nous avons la responsabilité de leur faire savoir quelle est cette vérité. Donc aujourd'hui, je veux parler du pourquoi et du qui et de quoi et du pourquoi de ce que l'homme est sur la terre. Et dans le processus, répondre à certaines questions, ceux qui m'écoutent. Et dans ce processus, j'espère que vous et moi, en tant que nous écoutons ces mondes, nous pouvons ressentir la motivation et le zèle pour la vérité, en nous rappelant ce à quoi Dieu nous a appelés et que cela nous conduira à devenir encore plus, de plus en plus proche de lui pour faire sa volonté. Parce que sa vérité devrait nous motiver. Et tant de fois dans la vie, les choses peuvent essayer d'être simplement mises de côté et les préoccupations de ce monde cela ne devrait pas vous arriver à vous et moi. On ne devrait pas oublier cela. Revenons dès le début et répondons à une question. Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi te soucies-tu de lui? C'est les paroles de David. Je ne veux pas commencer à Genèse toutefois. Je voudrais commencer au début de l'histoire de l'homme et pourquoi il est sur terre et ce que Dieu fait avec l'humanité. Nous allons nous reporter à Jean 1. Jean 1, nous allons parler de Jésus-Christ et des versets très familiers à l'homme, car l'histoire de l'homme a commencé bien avant qu'il soit placé sur la terre. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Clairement deux êtres divins, un qui deviendrait plus tard Jésus-Christ, mais deux êtres ensemble dans l'univers depuis le début des temps. Cela nous dit que le mot, la parole, toutes ces choses ont été faites à travers lui, que sans lui, rien n'a été fait sans cette parole. Cette parole devint plus tard Jésus-Christ. J'ai entendu dans la sermonnette concernant la loi de deux ou trois témoins. Dieu dit souvent dans la Bible la même chose, deux ou trois fois, parce que faut que ce soit établi par deux ou trois témoins. Dans Colossiens 1, verset 16 à 22-23, Paul répète la même chose, que toutes choses ont été faites par Jésus-Christ dans le ciel et sur la terre. Nous avons établi ça, nous avons aujourd'hui Dieu le Père et Jésus-Christ qui étaient la parole, les deux êtres divins, ont commencé bien avant, depuis l'éternité, remontant au-delà de tout ce que nos esprits peuvent sonder. Au verset 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Nous apprenons que celui qui est devenu Jésus-Christ apporte la lumière et la vie. C'est pourquoi au verset 5, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est intéressant quand vous regardez le mot comprendre, en grec, ne l'ont pas reçu. Cela veut dire aussi que les ténèbres aussi n'ont pas pu, n'ont point reçu. Ici, ça veut dire que les ténèbres n'ont pas complètement obscurci la lumière. Il y a toujours eu un petit peu de lumière. Il dit que le mot, la parole, donc, s'est faite chair. Il est devenu chair, donc. Nous ne savons pas. Il est venu en chair, mais nous ne savons pas avec certitude, dans l'histoire de l'infini, si je peux utiliser ce terme. Est-ce qu'il y avait eu de la chair auparavant, ou est-ce qu'il n'y avait que des êtres spirituels? Que faisait Dieu quand le mot est devenu chair? Pourquoi Dieu lui-même aurait-il besoin de devenir chair? C'est un plan qui n'avait pas été écrit dans Genèse 1, c'était un plan qui était écrit bien avant. On nous dit ça dans plusieurs endroits de la Bible. Nous allons nous tout reporter à Apocalypse 13 pour voir cela. Apocalypse 13, souvenez-vous, la discussion de la puissance de la bête qui arrive dans le monde lorsque nous transitionnons d'un état démocratique aujourd'hui à un état très autocratique qui dictera ce que nous ferons, ce que nous croirons et qui vous adorerez ou au moins tentera de le faire. Mais au verset 8, il est question de cette puissance de la bête et que le monde devra s'incliner devant lui. Parce qu'il n'y a pas d'autre espoir, mais ce pouvoir de la bête sort de la mer et fournit certaines réponses aux gens à cette époque-là. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Dès le début, avant même la fondation du monde, dès la fondation du monde que vous et moi connaissons, qui a toutes les caractéristiques physiques que Dieu nous a données, les animaux, les plantes, les arbres, le temps, l'eau, tout ce que Dieu a créé pour que l'humanité puisse vivre sur cette belle planète, avant que cela ne se produise, il avait déjà été déterminé que l'agneau Jésus-Christ serait tué et ce serait avant la fondation de la terre. Tout ce que Dieu allait faire sur cette planète avait quelque chose de si magnifique en tête, que Dieu viendrait sur terre, naître en tant qu'un être humain charnel et faible et fragile et donner sa vie pour tout cela. Qu'est-ce que Dieu avait en tête? On peut avoir un aperçu de quelque chose d'autre qui s'est passé avant cette époque lorsque nous revenons en arrière à Ézéchiel 28, avant que le monde ne soit formé, le monde que nous connaissons aujourd'hui, afin que nous puissions exister, nous voyons quelque chose qui s'est passé avant cela. Il y avait un autre être au ciel qui avait créé du tumulte et de perturbations. Vous connaissez bien Ézéchiel 28, verset 12. Ézéchiel 28, verset 12, « Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Et il parle concernant un être qui était presque la création ultime de ce que le Christ avait créé. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais une création absolument formidable. Christ peut dire, je t'ai créé. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais un spécimen parfait. Je t'ai donné tes talents, ta beauté, ton apparence, ta position, je t'ai donné tout quand je t'ai créé. Tu étais en Éden, il est dit, le jardin de Dieu. Qu'est-ce qui est dit à propos d'Éden? Vous savez, Adam et Ève étaient au jardin d'Éden et ont été expulsés après. Mais cet être était dans le jardin d'Éden. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de saphir, d'escarbouche d'amoureux d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour. Voici à nouveau ces pierres. Vous savez, il n'y a pas longtemps, quand j'ai parlé d'être des pierres vivantes, Dieu nous compare à des pierres vivantes, et lorsque vous voyez dans l'Apocalypse 21 et que vous voyez l'épouse du Christ descendre, elle est ornée de toutes ces pierres. Qu'est-ce que Dieu a à l'esprit et que nous dit-il à propos de cet être créé qui est orné de toutes ces pierres précieuses? Le travail de tes timbres et pipes a été préparé pour toi le jour où tu as été créé. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, au verset 14. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Elles émanaient de là où était Dieu. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvé chez toi. Je sais que nous connaissons l'histoire de Satan et nous savons bien quel était son péché. Je ne vais pas me reporter à Ésaïe 14, vous pouvez vous y reporter plus tard, mais l'orgueil est devenu la chute de Satan. Vous savez, au long du chemin, nous lisons ces mots que Dieu a écrits à propos de celui qui est devenu Satan, mais nous savons que c'est Satan aujourd'hui. Ce sont des mots qui nous rappellent aussi. Je t'ai créé, je t'ai donné les talents. Ce que tu fais, ce n'est pas à propos de toi. C'est ce que je t'autorise, ce que je te permets de faire avec ce que je t'ai donné. On ne peut pas penser que je suis tellement talent, je suis tellement, j'ai tous ces talents et je suis tellement génial, je suis une personne spéciale. Nous devons toujours réaliser que c'est la santé que Dieu nous donne, notre apparence. Nous n'avons rien décidé de cela. C'est Dieu qui a fourni tout cela. Cet orgueil que Satan a développé au fil du temps a perturbé tout l'univers. Ce que Dieu avait en tête pour cette partie de temps a mis tout, fin à tout. L'orgueil a fait que le péché était en lui, et puis ce péché a conduit Satan à être complètement renvoyé du ciel. Ce n'est pas surprenant que le Christ, lorsqu'il nous parle, il nous rappelle souvent et tout le temps que nous devons être des gens humbles et que l'orgueil ne peut pas faire partie de notre existence, que l'orgueil détruit les relations. L'orgueil perturbe, l'orgueil cause des problèmes et que l'orgueil peut nous éloigner tout de suite du plan de Dieu, tout ce qu'il a préparé pour nous ou prévu. Il a quelque chose en tête pour celui qui était sa, qui est Satan aujourd'hui, mais son péché a mis fin à cela. Au verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipiterai. Et je te précipiterai de la montagne de Dieu, je te fais disparaître du milieu des pierres étincelantes. Il ne marchera plus avec Dieu si tu oublies qui t'a créé et qui t'a fait ce que tu es. Tout ce potentiel se termine. Tout un message pour nous. Son cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu par la multitude de tes iniquités. Tu as verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle, roi. Et nous savons que cela est arrivé bien avant que l'humanité ne soit créée sur terre. Nous avons donc cet être qui est jeté sur la terre, je vous ai déposé, je te livre en spectacle, roi. Lorsque nous regardons ces paroles et que vous et moi savons quel est le plan de Dieu, nous savons des choses que les rois de la terre et les hommes puissants de la terre et les hommes très riches de la terre et les hommes très brillants de la terre ne savent pas. Ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents qu'eux, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs qu'eux. C'est parce que nous a donné cela. Alors revenons en arrière et voyons ce qui est dit dans Genèse maintenant. Reportons-nous à Ésaïe 45. Ésaïe 45. Le livre d'Ésaïe a tellement de signification et de prophétie. Le livre d'Ésaïe est l'un des principaux prophètes qui vaut vraiment la peine d'être étudié, mais ça prend du temps pour vraiment plonger dans le livre d'Ésaïe et comprendre ce qu'il y a, ce qui s'y trouve, dans Ésaïe 45 et verset 18. Dieu enregistre cela, il dit car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, et qu'il l'a affermie, qu'il l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qu'il l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Le mot hébreu, si vous n'avez pas entendu depuis un bout de temps, c'est le mot tohu bohu. Il ne l'a pas créé pour être chaotique, plein de confusion, avec des déchets et vide. Dieu ne fait pas ces choses-là, il ne crée pas des choses inutiles et vides. Comme il y en avait comme le mot le dit. Dans 1 Corinthiens 14, 33, il est dit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il est le Dieu, un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de confusion. Et Dieu dit, je n'ai pas créé le monde pour qu'elle soit tohu, pour qu'elle soit en vain. Il l'a créé pour qu'elle soit habitée. Reprenons au verset 1, dans Genèse, verset 1, voyons que le monde est introduit au tout début de la Bible comme étant dans cet état. Un nouveau commencement ici, qui s'est produit après la fin du commencement qui a lieu dans Jean 1. Il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce que nous avons lu. La terre était un Dieu. Est Elohim, qui veut dire mieux, plus, c'est un mot pluriel, qui est donc Dieu et celui qui est devenu Jésus-Christ. Au début, a créé les cieux et la terre était informe est vide. Et voilà ce mot, tohu et bohu. Et il avait dit, je ne l'avais pas créé ainsi. Chaotique, confuse, la terre était sans forme. Tohu et bohu signifie la même chose dans la langue hébraïque. Les ténèbres étaient sur la surface de la terre et Dieu ne l'avait pas créé ainsi. Donc, quand la terre était créée, nous pourrions poser cette question, il l'a laissée sans réponse pour l'instant. Car si Dieu n'a pas créé la terre en vain, a-t-elle été créée dans Genèse 1:1, parce que Dieu regarde la terre et la voici dans un état qui n'est rien de comparable à ce que Dieu créerait de cette façon. Au début, Dieu avait créé les cieux de la terre, il y avait des ténèbres. Nous avons lu que Dieu n'est pas ténèbres, il est lumière. En lui est la vie et les ténèbres. Et ici, nous avons un monde très plein de ténèbres, un monde pas joli. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu regarde sur la terre, il jette ses regards sur la terre et il constate qu'elle n'est pas dans l'état où il l'avait créée. Et il dit que la lumière soit. Dieu, c'est lui qui, à nouveau, comme nous l'avons lu dans Jean, pourvoit la lumière. Il créa le soleil, la lune, les étoiles, qui fournissent la lumière aux êtres humains, pour les temps, pour les saisons, le soleil et la lune. Et c'est ainsi que le temps commence à être créé, et pour marquer les jours, pour marquer les saisons, pour marquer le temps, il créait les poissons, les animaux, les oiseaux, et il le fait d'une façon très ordonnée. Et nous descendons au verset 22 dans Genèse 1, alors que Dieu crée toutes ces choses. Il dit, en voyant ces choses, ces créatures qu'il a créées, Dieu en dit, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer, les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il crée le processus de reproduction, que ces choses physiques seraient capables de se reproduire, qu'elles seraient capables de remplir toute la terre. Cela en soi est un miracle que Dieu a créé les corps des animaux et des hommes, de façon à ce que nous puissions nous reproduire et remplir la terre. Au verset 24, il est dit qu'il commence à créer les animaux vivants sur la terre, le bétail, les reptiles, les animaux terrestres selon leur espace. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce. Il le répète, et toutes les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il a donc créé les espèces, et ces espèces restent comme elles sont. Nous ne pouvons pas mélanger une vache avec un cheval et arriver à quelque chose au milieu. Ça ne va pas vraiment être une bonne chose. Dieu a créé des espèces séparées, une espèce après son espèce. Vous le voyez dans la création qu'il a faite. Et au verset 26, il va créer l'homme, l'humanité. Puis au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. À notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la terre. C'est une chose très révélante. Toutes ces choses que vous et moi vivons et apprécions, que nous voyons autour de nous, Dieu a tout fait. Et ensuite, il crée l'homme et il dit, faisons-le à notre image. À quoi ressemble Dieu? Nous avons quelques aperçus dans la Bible de ce à quoi Dieu ressemble, si nous pouvons utiliser ce terme. Dans Ézéchiel 1, je vais vous donner quelque chose où vous pouvez trouver ces descriptions. Nous voyons que Dieu s'assoit sur un trône et qu'il ressemble à un homme. dit Ézéchiel, sous l'inspiration de Dieu, nous pouvons voir dans Apocalypse 1, où Dieu parle à avec l'esprit, il parle d'un Dieu avec des cheveux blancs, une taille, des jambes. À quoi ressemble Dieu? Bien, la Bible nous donne quelques aperçus, et ici au verset 26, quand il fait l'homme, il dit « L'homme, faisons-le à notre image, laissons-le ressembler à nous. » Pourquoi Dieu dirait-il cela? Faisons-le à notre ressemblance et donnons-leur qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je vais lui donner la terre. Il dominera toute cette planète que j'ai maintenant recréée, si vous voulez. Que l'homme vive, domine et sur ces choses. Il répète au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Cela a du sens qu'il y aurait deux êtres humains et que ces deux, comme les animaux, pourraient se marier et devenir une seule chair, parce que s'il avait fait l'homme à son image, nous avons deux êtres divins de toute façon. Nous avons celui que nous savons être Dieu le Père et l'autre, Jésus-Christ. Et ils sont parfaitement unis en un. Ils sont un dans l'esprit, ils ne sont pas le même être, mais ils sont unis dans leur objectif à l'esprit, dans la planification de tout ce qu'ils font. Et la volonté de Dieu pour ces êtres humains qu'il a créés hommes et femmes, mâles et femelles, et qu'ils deviennent un, tout comme Dieu et Jésus-Christ sont un. À l'image de Dieu, il les a créés hommes et femmes. Nous commençons à voir, en retraçant l'histoire de l'humanité, ce que Dieu avait en tête, c'est quelque chose de très puissant, parce que l'homme est le point ultime de la création de Dieu. Tout ce qu'il a créé, c'était pour l'homme. Vous savez que Dieu pouvait simplement dire que cela ait lieu, mais il y avait beaucoup de pensées, beaucoup de planifications lorsque Jésus-Christ a planifié la terre avec Dieu le Père. Peut-être des années, il n'y a pas de temps avec Dieu. Il a planifié tout cela pour que ça marche selon son plan. Il savait tout, même il voyait, il a étudié ce qui s'est passé avec celui qui est devenu Satan. Comment a-t-il réagi? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle était sa réponse? Et il savait que si cette influence était sur Terre, il savait comment l'humanité réagirait. Parce qu'il vous connaît, vous et moi, parce qu'il nous a créés mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et il nous teste. Comment vont-ils réagir? Et si nous agissons de manière inappropriée ou rénale la prochaine fois avec son Saint-Esprit, je m'éloigne de mon sujet ici, je m'écarte. Revenons ici au verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence. Et Dieu dit, voici, tout cela était très bon, au verset 31. Il avait fait tout cela pour mettre l'homme sur la terre. Au verset 7 du chapitre 2, nous voyons ici, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Juste pour notre mémoire, c'est une âme vivante, je pense que l'ancienne version de la Bible anglaise, ça vient du mot hébreu nefesh, qui veut dire que c'est une âme mortelle, une âme qui peut mourir, c'est le sujet d'un autre sermon. Il n'y a pas d'immortalité de l'âme. L'immortalité n'est pas quelque chose que Dieu a construit dans la vie humaine. Il les a construits comme êtres humains. Il les a créés en tant qu'êtres humains qui peuvent mourir. Et Dieu les a mis. Il est dit au verset 8. il a mis l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Un bel endroit spectaculaire, nous ne pouvons probablement même pas imaginer la beauté qui était là. C'est un endroit spécial de Dieu. Dieu a dit celui qui est devenu Satan était là. Et il s'y trouve. Il n'a pas posé la question où est-ce qu'il était, comment le monde est commencé si, comment est devenu si chaotique. Dieu ne l'avait pas créé ainsi. Nous supposons que la terre est devenue ténébreuse et chaotique à cause du péché de Satan, à cause de l'orgueil de Satan qui avait été jeté sur la terre. C'est ce que l'opposition à Dieu, la résistance à Dieu apporte. Il apporte la misère. Les choses deviennent sombres et de plus en plus sombres à mesure que les hommes s'éloignent de Dieu. Plus on s'éloigne de la lumière, et plus notre vie peut devenir chaotique. Et au verset 15, il est dit que Dieu les a mis dans le jardin d'Éden pour s'occuper et le garder. Et au verset 16, reportez-vous au verset 16, l'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Je ne peux pas parler pour tout ce qui est de l'infinité avant, mais je me demande si la mort avait déjà été dans le cadre de ce qui était avant. Est-ce qu'il y avait la mort avant, ou est-ce que quand Dieu a dit à Adam et Ève, il leur disait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas saisir, qu'ils n'avaient pas compris vraiment ce que cela signifiait. Peut-être qu'il leur a expliqué, je ne sais pas. Que, en fait, leur vie n'allait pas durer éternellement. Il leur a donné un choix. Il leur a dit, ne mangez pas de cet arbre. Ne venez pas comme l'un d'entre nous. Ne décidez pas pour vous-même de déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Je suis Dieu, je t'ai formé, je connais les réponses à ce que la vie, la joie, la paix et tout ce qui est bien sera et d'où ça vient. Et je voudrais que... Ne choisissez pas un autre chemin, parce que d'une façon ou d'une autre, l'autre être, Satan, a choisi un autre chemin. Et cela a eu un effet dévastateur sur la terre. Et il ne voulait pas que l'homme fasse cela. Et il l'avertit. Mais nous descendons au chapitre 3. Il y avait un autre être, Aïden. C'est un très beau verset lorsque Dieu dit qu'il marche dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, mais il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait un serpent qui allait parler à Ève de toutes ses manières subtiles et rusées. Donc il commence par ce concept de la mort. Dieu vous a-t-il dit que vous mourriez? Qu'est-ce que la mort? Est-ce que quelqu'un est mort? Avant, je ne sais même pas ce qu'est la mort. Je suis toujours en vie. J'ai défié Dieu, quoi qu'il ait fait, ce sera intéressant quand nous découvrirons quel mot a été utilisé pour inciter Ève à se retourner contre Dieu. C'est un peu une chose incroyable, mais c'est à quel point Satan est subtil et manipulateur. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu pour nous guider et faire attention à ce que nous faisons dans le chapitre 3, nous connaissons bien l'histoire, bien sûr. Ève entend tous les arguments de Satan et elle est d'accord, elle abandonne ses convictions et elle va manger de ce fruit. Et lorsqu'elle le fait, ses yeux deviennent fermés et elle se voit eux-mêmes de façon différente, séparée de Dieu, parce que c'est ce que l'iniquité, le péché fait à vous et moi lorsque nous choisissons de résister Dieu ou de résister à Dieu. Cela ferme nos yeux et nous ne nous sentons plus proches de lui. Au verset 13 du chapitre 3, elle dit une chose assez intéressante. Le Seigneur Dieu, au verset 13, je lui dis, c'est pas le verset 13, il dit tout simplement le diable, Satan, m'a séduite. Au verset 13 du chapitre 3. Pourquoi tu fais cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le monde entier a été séduit et a été coupé de Dieu. Ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont sur la terre. Pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on fait pendant 70, 80, 90 ans? On vit, on meurt, on accumule toutes ces choses et d'un seul coup, la vie change et on n'a absolument rien, aucun contrôle là-dessus. Où est-ce que tout cela s'en va? Quelle est la vérité de cela? Pourquoi sommes-nous même ici? Et donc, nous trouvons que Ève annonce que le serpent l'a séduite. Le serpent a séduit le monde entier, dit l'apôtre Jean. Il a séduit l'humanité entière. Dans 1 Jean 5,19, le monde entier, nous voyons, est sous l'emprise de Satan. Et Paul dit cela également dans 2 Corinthiens 4,4, Satan est le dieu de cet âge. C'est ce qu'ils écoutent. Ève a fixé la norme ici pour ce que l'humanité allait faire. Je serai plus sage et meilleur que Dieu. C'est la décision de faire la même chose que celui que nous connaissons et Satan il y a bien longtemps. Et lorsque nous faisons des compromis avec ce que Dieu nous dit de faire, nous suivons le même chemin que Satan. Tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle vivait avec ce qu'elle utilisait a été fourni par Dieu. Tout ce qu'elle avait. Et pourtant, elle s'est permise d'être trompée, séduite par Satan, de penser qu'elle n'avait pas besoin vraiment d'écouter Dieu entièrement. Elle n'avait pas vraiment besoin de lui obéir complètement. Et quel était ce concept de la mort, de toute façon? Donc, au verset 22, il est dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. » Ça ne veut pas dire qu'il était égal à Dieu, ça veut dire qu'il avait pris sur lui-même de décider ce qui est bien et mal, de choisir sa propre voie. Et donc, vous avez cela. Et il est sorti du jardin d'Éden, il n'est plus à la place de Dieu. Mais maintenant, dans le monde, en dehors de lui. Et nous lisons dans le Nouveau Testament à propos de cette attitude que l'homme, l'attitude que elle avait, dans Romains 8:7, il nous est dit que l'esprit charnel est inimité contre Dieu. Donc, Ève et Adam, par leur propre choix, ont un esprit qui est contraire à Dieu maintenant. Donc, l'état naturel de l'homme, sans l'esprit de Dieu, est de résister à Dieu. Je ne veux pas entendre, je ne veux pas le croire, je ne veux pas le faire, je préfère continuer à faire les choses à ma façon. Je pense que je suis plus intelligent que les mots de la Bible. Évidemment, les gens ne disent pas ça, même les gens qui croient en Dieu. Quand on refuse vraiment d'écouter à la lettre ce que Dieu dit, et qu'on dit, ah ben non, je vais faire ça, Dieu dit de faire ceci, mais moi je vais faire un peu comme ça, en attendant ça ira. Sous cela, tout ce que l'Esprit de Dieu nous donne, c'est de nous donner cette habilité de lui obéir, cette assiduité, de nous soumettre à lui, à sa miséricorde, à ses bénédictions qu'il nous a appelés à connaître. Le monde n'est pas encore appelé à connaître tout cela. Peut-être que certains de ceux qui écoutent aujourd'hui commenceront à voir quel est le but de l'humanité. Si nous en revenons à Luc 10, verset 21. Après que le Christ remercie Dieu pour avoir ouvert l'esprit des hommes qu'il avait envoyés pour prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons en son nom, au verset 21 de Luc 10. En ce moment-là, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants, car il semble que cela semblait bon, et de ce que tu les as cachées. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ils ne savent pas, mais de ce que tu les as révélées à tes enfants, aux enfants. Tu as révélé les choses On peut voir ce que Dieu le Père travaille. L'humanité le saura en temps voulu. Et tu as choisi quelques-uns qui sauront. Et ils sortiront et ils feront ce que je leur demande de faire. Tout comme ces 70 personnes qui sont revenues. Ils vont aller et prêcher mon évangile. Ils vont faire ta volonté. Ils vont obéir dans tous les domaines parce qu'ils ont les yeux ouverts. Merci pour cela. Le Christ remercie le Père pour cela. Il y a quelques semaines, quand j'ai parlé, je suis allée à Éphésiens, j'ai parlé du mystère de l'Église et de quel Dieu travaille dans l'Église. Et comment ce verset, il est dit que même les anges dans le ciel cherchent à savoir ce que tu fais avec l'homme. Voici l'homme, qu'as-tu fait? Que fais-tu avec lui? Il t'a rejeté, il est faible, il est rien face à la face de la terre. Tu pourrais l'anéantir de la face de la terre si tu voulais. Les anges regardent ce que Dieu fait, ils travaillent à travers l'Église, ils suivent la permission de Jésus-Christ et ils voient les hommes se développer dans la façon. Même les anges regardent ce mystère de ce que Dieu travaille en nous. Pierre dit la même chose. Reportez-vous à 1 Pierre. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, verset 12. Pierre parle que les prophètes ne comprenaient pas ce que Jésus-Christ vraiment allait mourir et certains ne comprenaient pas cela. Ce qu'était le Saint-Esprit, les prémices, tous ces concepts n'étaient pas toujours développés pour les prophètes à l'époque. Mais au verset 12, il leur fut révélé, il parle des anciens prophètes, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous, il est dit en anglais, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges regardent ce que Dieu travaille sur cette terre, ce qu'il fait. Est-ce que ça va marcher? Comment pouvez-vous sauver l'humanité qui a rejeté Dieu et faire de lui tout ce que Dieu envisage de faire pour nous? Comment est-ce que ça va marcher? Dans Psaume, chapitre 8. Psaume, chapitre 8. Un homme, selon le cœur de Dieu, a méditer sur ces questions dont nous parlons aujourd'hui dans Psaume 8 et au verset 3. Il regarde aux cieux les étoiles, la lune et toutes ces choses et il réfléchit à quel point ce Dieu est magnifique d'avoir créé toutes ces choses. Il dit, quand je contemple les cieux au verset 4 dans la Bible française, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Que fais-tu? Je suis un simple petit être humain qui pourrait marcher à et nous ne suivons pas en tant qu'humanité. Pourquoi est-ce que tu gaspilles ton temps avec nous? Et donc, Dieu répond à cette question d'une humanité qui l'a rejetée pour revenir à répondre à cette question. Nous revenons à Jean 3. Il dit quelque chose que le monde entier est cité aux États-Unis dans les jeux de football, c'est écrit partout dans les gyms. Jean 3, 16. Vous pouvez travailler sur certaines zones, aux États-Unis, c'est un verset très connu qui se retrouve même sur les paquets de hamburgers parfois. Mais ils ne comprennent pas même la profonde signification de ce passage. Pourquoi est-ce que Dieu aime-t-il l'homme? Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'homme charnel est une déception devant Dieu d'avoir choisi la voie qu'il a choisie. Et pourtant, Dieu l'aime tellement que le mot qui s'est fait chair était prêt à naître, à souffrir, chair, souffrir d'une mort horrible pour que tout ce que Dieu avait à l'esprit pour l'homme était si important qu'il était prêt à faire cela, qu'il était prêt à mourir. Lequel d'entre nous serait prêt à faire cela? Son micro a fait un bruit bizarre. C'est pour ça qu'il sourit. Probablement l'un d'entre nous aurait dit, c'est sans espoir, l'humanité est sans espoir. Mais avant la fondation du monde, Dieu savait ce qui allait se passer. Il avait un plan. Il allait demeurer fixé sur son plan. Et comme la plupart du monde chrétien, entre guillemets, nous savons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Elle a été obscurcie, elle a été cachée, et s'est transformé en quelque chose d'autre. Ils n'obéissent plus vraiment à Dieu. Nous commençons à voir dans 1 Corinthiens 15, parce que le Christ a été né dans la chair, comme il a été tué de la fondation du monde, comme nous l'avons lu, et comme Dieu a ouvert la vérité à plus de gens, l'Esprit, dans 1 Corinthiens 15, Dieu a inspiré l'apôtre Paul sur ce qui s'est passé au verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez été sauvés. Le même évangile que le Christ avait prêché, vous leur enseignez à absorber toutes les choses que je vous ai commandées. Et par lequel vous êtes sauvés, si, et ce petit mot est important, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement dit, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais ainsi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Toutes les paroles de la Bible sont la vérité. Les gens se demandent où est la vérité. Il y a une seule source de la vérité. La Bible est la vérité et elle raconte tout le plan de Dieu. Il a été enterré, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, il a été vu par Céphas, par Pierre, il est apparu à Céphas puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelqu'un sont morts. Dans ce cas-là, il est dans la Bible anglaise, il dit que quelqu'un sont endormis, il explique que cela veut dire mort, mais c'est déjà très bien traduit dans la version française. Adam et Ève avaient fait ce choix. Et ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les hommes, les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu à moi, comme à un avorton. Tous ces témoins, tous ces apôtres ont parlé de sa vie. Ils savent tous qu'il est mort. Ils l'ont vu, il y avait des témoins. Ils l'ont vu ressusciter à la vie. Beaucoup, beaucoup de gens, on ne peut pas en douter. Dieu s'est assuré qu'il y avait suffisamment de témoins ici pour que nous soyons convaincus de ce qui s'est passé. Si nous descendons au verset 19, si c'est donc dans cette vie que nous avons, aussi longue que Dieu détermine qu'elle soit, si c'est donc dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et tous ces hommes comme Elon Musk qui posent des questions, ils se disent, pourquoi essayer quoi que ce soit si les choses peuvent changer, si les choses peuvent aller de quelque façon qu'elles soient, si nous ne sommes que cette vie, qu'il n'y a pas rien d'autre, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il a vécu en chair, il est mort, il est ressuscité, comme il y a beaucoup de témoins. Et maintenant, il a la vie éternelle et s'est assis à la droite de Dieu. Les apôtres, dans Actes, l'ont vu monter au ciel. Ils l'ont touché après qu'il ait été ressuscité. Il est très clair. Comme il est dit dans Hébreux 6, 20, il était le précurseur de l'humanité. Il était le premier. C'est lui qui traçait le chemin, qui avait montré le cap, qui a suivi, qui a montré comment cela peut être accompli, comment c'est la vérité, comment vous pouvez naviguer là où vous êtes, dans votre les divers tournants de la vie, pour aller à la vie éternelle. Il nous a montré le chemin. Il est le premier. Et au verset 21, c'est ce que Paul dit. Ainsi, par un homme est venu, la mort est venue par un homme. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Lorsque nous croyons vraiment, et beaucoup d'entre nous ont entendu lorsque je parle du mot croire, ne veut pas dire, selon le mot hébreu, le mot croire ne veut pas dire quelque chose de superficiel. C'est quelque chose que vous avez, qui veut dire que vous l'avez vraiment au fond de votre cœur et de votre âme. Lorsque vous, ce mot croire, le Christ a tracé le chemin. Il était un homme. Au verset 21, il répète, la mort est venue par un homme, Adam. Par le choix d'Adam et Ève est venue la mort. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous revivront en Christ. Il y a une vie physique. Le livre de Corinthiens en parle. Il y a une vie physique. Et ensuite, nous mourrons. Et si nous avons l'Esprit de Dieu, nous ressusciterons. Mais pour toute l'humanité, il y aura une autre vie où ils revivront à nouveau. Ceux qui connaissent la vérité maintenant en sont responsables, baptisés ou pas. S'ils connaissent la vérité, lorsque les morts entendront la voix de Dieu, ils seront ressuscités. Ceux qui ont le Saint-Esprit. Un jour, la vie éternelle, un diable ou la mort éternelle, certains pour la nation. Et passons donc à Hébreux 1. Nous trouvons la réponse à ce que David parlait, aux questions que David se posait dans Hébreux 1. Il hésite ici. Laissez-moi vous lire les 5 premiers versets. J'essayais de raccourcir, mais lisons tout le contexte pour mieux comprendre. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Il a créé tout l'univers à nouveau, Colossiens 1, 16, tout a été fait par le Christ. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux très hauts. Par la purification de nos péchés et le baptême et le Saint-Esprit, nous avons accès à la vie éternelle. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges de Dieu, les anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le Christ a dit cela, il a été fait un petit peu plus bas, il a été rendu un petit peu au plus bas que les anges, avant d'être remis à sa gloire. Et vous pouvez lire dans Hébreux 2, verset 5, l'auteur ici dit, inspiré par Dieu, « Ce n'est pas à des anges que Dieu a promis le monde à venir dont nous parlons. Donc, il ne l'a pas soumis aux anges. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Nous sommes des êtres humains mortels qui pouvons mourir. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Il y a un but au-delà de la vie physique. Nous en parlons de ça, c'est le sujet d'un autre sermon, mais nous voyons que Jésus a été fait un peu inférieur aux anges et qu'il allait souffrir. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils ait été élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Je ne prendrai pas le temps d'élaborer davantage là-dessus. Vous pouvez aller regarder et lire ces versets à la maison. Mais le Christ nous montre le but de l'humanité. Dieu avait quelque chose en tête pour l'homme. Il avait quelque chose en tête pour celui que nous connaissons aujourd'hui comme Satan. Il a complètement échoué dans son appel et le but de sa vie parce qu'il s'est retourné contre Dieu. Dieu a quelque chose en tête pour l'humanité, pour vous et moi. Laissez-moi vous donner maintenant Matthieu 25, verset 14. Matthieu 25, verset 14, où il est dit: il en sera comme d'un homme. Non, ça ne correspond pas. Il a donné la mauvaise référence ici. Lorsque les gens croient en Christ, lorsqu'ils se repentent, lorsqu'ils sont baptisés, qu'ils reçoivent l'imposition des mains pour recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit Saint complète un être humain. Comme il nous est dit dans Corinthiens 2, le monde dans son ensemble n'a pas l'Esprit Saint de Dieu aujourd'hui. Ils l'auront un jour s'ils choisissent de se repentir et de venir à Dieu. Mais allons, reportez-vous à 1 Corinthiens 15. Voyons l'exemple de Jésus-Christ. Nous avons des gens qui vivent et qui meurent. Et nous avons ce monde à venir dont la Bible parle, dont j'arriverai ici dans un instant, dont je parlerai dans un instant, au verset 50. Dans 1 Corinthiens 15, verset 50. « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang, c'est-à-dire vous et moi aujourd'hui, ne peuvent, et c'était Jésus-Christ lorsqu'il vivait sur la terre, ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne pourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Vous et moi, sans le Saint-Esprit, en nous, par le baptême, ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés, un nouveau corps, comme il est dit dans « pas le même corps que vous et moi avons aujourd'hui. » Car ce corruptible doit revêtir l'incorruptibilité au verset 53, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura vêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Cet ennemi de l'homme mourra. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et le but, l'objectif de Dieu sera achevé. C'est ce que Dieu a en tête pour nous. Reportez-vous à Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Vous m'avez peut-être entendu parler, où j'étais pasteur, que Dieu nous a dans un programme de formation aujourd'hui. Nous sommes ici pour apprendre ses voies, afin que nous puissions, et s'il nous fait confiance implicitement que nous allons le suivre, même dans la souffrance, et que nous n'allons pas lui désobéir, se tourner contre lui, choisir pour nous-mêmes. Nous voyons parfois Dieu nous dit quelque chose de bien spécifique, mais nous faisons autre chose, n'est-ce pas? Parfois nous faisons cela. Avec son esprit, s'il y a aucun doute dans l'esprit de Dieu que nous allons faire des compromis avec notre habilité de nous soumettre entièrement à lui, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume. Ça sera toute cette terre va disparaître quand Dieu en aura fini avec le but pour l'humanité. Dans Apocalypse 20, verset 14, il est dit « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Personne ne veut être jeté dans l'étang de feu. C'est une nouvelle terre. C'est l'apôtre Jean qui écrit, mais Pierre et d'autres apôtres, les apôtres ont aussi un autre témoin, on dit, ça va disparaître, ça va être brûlé. À un moment donné où la terre physique et le temps de l'homme va être terminé. Et au verset 22, je vis au chapitre 21, verset 1, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et Dieu habitera avec ces hommes faibles, ces hommes de chair, qui auront été changés en êtres incorruptibles. Il demeurera en eux, il sera son peuple, il sera avec eux, il sera leur Dieu. Dieu lui-même sera avec eux, verset 3. Je m'excuse de tous ces versets, mais le plan de Dieu est révélé clairement dans la Bible. Dans Jean 1, il y a beaucoup de versets, il y a des tas de sermons qui pourraient être donnés. Ça, c'est plutôt un résumé de ce que Dieu a en tête. J'espère que ça ne vous rappelle de qui nous sommes, de ce que nous sommes, comment nous en sommes arrivés à être, venir à écouter à l'Assemblée ce message de la véritable Église de Dieu, son corps à travers le monde. Il nous a appelés dans un but. Ne le perdez jamais de vue. Gardez-le dans votre esprit. Dieu veut que nous soyons ses fils et ses filles. Il veut une famille. Dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est ce que vous et moi avons. Si on a été baptisé, on disait à Dieu, quoi que vous fassiez, je ne veux plus que ce soit moi. Enterre le vieil homme. Écris en mon cœur tes principes et je te suivrai là où tu veux que je te suive. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, non pas parce que nous le voulions, ou de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ce sujet de croyance est un sujet pour une autre fois, pour ceux d'entre nous qui sommes ici, pour Monsieur Musk, pour tous les gens du monde qui se posent des questions, qu'est-ce que l'homme, où va-t-il, quelle est la vie, où tout cela va, les réponses est dans la seule source de vérité du monde, et c'est la Bible. Vous pouvez la chercher et la rechercher, mais toutes les réponses et tout le but, l'objectif sont là, dans la parole de vérité. Nous serons les enfants de Dieu.